Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien.
Allez-y,
j'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui,
Sortez, c'est cool.
Il est 16h sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours Lola et je suis avec Elio.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Noah Toth ainsi que Victor Durand, tous les deux venus nous présenter leur projet. Bonjour à vous deux.
Bonjour et merci.
Merci à vous. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter et présenter ce que vous faites dans la vie ?
Bien sûr, j'y vais. Donc moi, je m'appelle Victor Durand. Dans la vie, je travaille dans le cinéma, donc plutôt côté technique. J'ai fait pas mal de tournages de pub, j'ai fait aussi de la fiction. Et du coup, là, dans l'ordre des choses, je vais aussi m'essayer un peu au documentaire, dans ce qui arrive. Et donc voilà.
Et du coup, moi, je m'appelle Noah Toth et j'ai plutôt travaillé en finance durable. Et après, en investissement à impact, dont l'idée, c'est de financer des projets écologiques et sociaux, si je résume dans les grandes lignes. Et j'ai été impliqué, et je suis toujours impliqué, dans différentes associations qui visent généralement à ce que la finance et la durabilité puissent être comprises par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, vous avez un projet qui débute demain, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ?
Exactement. Eh bien, demain se lance la tournée À nous de compter, qui est une tournée lancée avec l'opération Milliard, sur laquelle on aura l'occasion de revenir et de présenter ce qu'elle est. Et assez simplement, c'est une tournée qui va durer 3 mois, qu'on va faire en grande majorité en vélo. Et on va relier différents lieux où je vais donner des ateliers, donc comme je l'ai dit en introduction, qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de comprendre ce qu'est la finance, de poser un petit peu ce système qui est très complexe, et de comprendre quel est l'impact qu'on peut avoir personnellement et collectivement sur ce système. Donc aussi démystifier tout un tas de concepts et d'avoir un petit peu des clés d'action face à sa banque, là où on peut s'en sentir un petit peu impuissant et impuissante seul. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet et on va le faire dans plus d'une trentaine de lieux, je crois. Et il y aura 42 ateliers au total qui sont des lieux reliés à l'opération Milliard et d'autres initiatives aussi qu'on aura aussi l'occasion de présenter.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'opération Milliard ?
Eh bien oui. Assez simplement, l'opération Milliard, elle a été créée il y a quelques années et on a souvent l'occasion de dire que c'est un cri du cœur d'associations, de coopératives et d'entreprises, on va dire à impact écologique et social généralement, qui se rendent compte qu'elles manquent cruellement de financement, que l'État se désengage en termes de subventions et de financement en général, alors que c'est des entreprises et des organisations, associations coopératives qui tiennent le tissu social, qui tiennent aussi la transition écologique en général. Et en fait, l'opération Milliard se dit comment on peut financer ces projets en sortant de la logique de la finance classique qui impose une rentabilité obligatoire et élevée sur les projets et qui impose une vision court terme et néolibérale, en gros. Donc comment on répond à ça ? Comment on finance les défis à venir ? Et comment on le fait de façon citoyenne ? C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement les mêmes personnes, très souvent localisées à Paris, dans des équipes spécialisées, qui décident finalement des projets qui seront financés, mais comment ça peut être les citoyens et les citoyennes qu'on voit au chapitre, un petit peu là-dessus. Donc comment on rend aussi ça plus coopératif et plus démocratique. Donc il y a vraiment un sujet de sensibiliser, de donner les clés à tout à chacun pour comprendre et pouvoir agir de façon collective aussi. Et donc l'opération Milliard souhaite à terme lever 1 milliard d'euros et créer ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. Donc des structures qui permettront de financer les organisations partout en France.
marqué et comment vous est venue l'idée de réaliser ce projet? Qui en est à l'initiative?
Mais c'est une initiative commune. En fait, je viens de développer un petit peu le volet démocratique ou coopératif de l'opération Milliard. Et c'est assez important de se dire que ces sujets sont très peu compris et très peu transmis. Donc, en fait, si on dit qu'OK, ça doit être populaire et ça doit être démocratique, c'est compliqué de dire à des personnes, je dirais, éloignées de ces sujets-là, « OK, maintenant, vous allez pouvoir décider sur les projets qui sont financés dans votre territoire. » En fait, il faut avoir quelques clés de compréhension de base pour se lancer dedans. Et donc moi, en parallèle, j'ai créé avec des associations, donc la Fresque de la Finance, un atelier, et avec Reboot, une association où je suis engagé depuis quelques années aussi, des ateliers qui visent vraiment à permettre cette compréhension à tout à chacun. Et en même temps, je suis bénévole au sein de l'opération Milliard dans un groupe de travail différent. Et donc, moi, ça m'a beaucoup parlé, notamment par rapport au job que j'ai fait avant, où en fait, je décidais, avec la structure dans laquelle j'étais, des projets qui étaient financés, de dire, tiens, il me manque cette pierre à l'édifice qui permet que chacun et chacune puisse décider, en fait. Donc, quand l'opération Milliard a lancé une première formation que je suis en train de suivre en ligne pour permettre aux personnes de comprendre ces sujets-là, c'est une formation qui est très bien, qui est en 10 sessions, qui est en ligne, mais c'est dur de s'y engager si on ne connaît pas les sujets. Donc, mon retour qui a été en co-construction avec l'opération Milliard, c'était de dire ça serait très chouette si on pouvait prendre les ateliers qui marchent bien, qui ont été développés par la Fresque de la Finance et par Reboot, et qu'on puisse les animer dans l'ensemble des lieux qui sont reliés à l'opération Milliard et au plus grand nombre en France, en fait. Et de dire, c'est une première compréhension pour ces personnes et derrière, on peut aller encore plus loin et que vous puissiez participer à des décisions collectives.
Ok, merci beaucoup. Et justement, en parlant des lieux, comment vous avez choisi les lieux que vous allez visiter?
Ouais. Je dirais pas. Pas que je les ai choisis, ça, l'opération Milliard, en fait, est en lien avec un maximum de lieux qui s'inscrivent dans cette dynamique. Et l'idée, c'est que les lieux puissent être des relais, du coup, de ce que je viens d'expliquer et permettre de démultiplier un peu ce message partout dans les territoires de France. Et donc d'expliquer ce que l'opération Milliard, d'expliquer qu'on peut avoir de l'impact à ce niveau-là, et de se dire que les problématiques en fait de chaque territoire et de bassin de vie partout en France sont différentes. Et donc que les lieux puissent remonter un petit peu ces spécificités à chaque fois et communiquer le message auprès des adhérentes et adhérents là-bas. Donc c'est des lieux qui s'inscrivent dans cette dynamique, qui ont déjà des travaux avec l'opération Milliard. Et moi, en fait, j'ai été avec l'opération leur proposer ces ateliers-là. Et on a eu un retour assez positif d'un grand nombre de lieux pour donner les ateliers. Et en plus de cela, en fait, il existe d'autres alternatives à la finance classique, je dirais, et que moi je connaissais, notamment Énergie Partagée, qui est une autre association qui vise à faire, comme le nom l'indique, de l'énergie partagée, en gros, et que les gens puissent décider des structures d'énergie renouvelable qui sont développées dans leur territoire, étaient aussi intéressés, ont plein de lieux relais et de gens qui voulaient suivre ces ateliers, donc je les ai aussi intégrés à la tournée. Pareil, il y a Les Cigales, une autre association qui vise à financer des projets citoyens, qui est intéressée aussi. Donc ça s'est construit un petit peu au fil de l'eau avec ces différentes propositions.
Ok, merci beaucoup. Alors vous êtes ici car vous vous arrêtez dans un lieu à Tours. Quel est le lieu que vous allez visiter ici à Tours?
Eh bien, demain matin, je vais animer un atelier à MAM, qui est un lieu plutôt autour de la culture et de l'art. Et c'est un lieu où Énergie Partagée, justement, a des bureaux ou du moins a accès. Et donc, c'est là où je vais donner l'atelier avec cette structure.
Ok. Merci beaucoup pour cette première présentation. On va pouvoir y revenir juste après. On va faire une pause musicale sur le 99.5 FM. On écoute tout de suite « Ce monde où tu n'existes pas » d'Ascendant Vierge.
J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. Le ciel penchant au travers, j'interroge le système.
Venez d'écouter Ce monde où tu n'existes pas d'Ascendant Vierge sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Il est temps de nous replonger du côté de nos invités. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Victor et Noah, venus nous parler de leur projet À nous de compter. Alors, le but aussi de que tu sois là, Victor, c'est donc de filmer certaines étapes aussi du périple. Qu'est-ce que vous allez filmer donc au sein de tout ce parcours et comment vous avez décidé aussi de quelle étape filmer ou non ?
En fait, avec Noah, en parlant de son projet, parce que ça vient quand même de lui et de son lien avec l'opération Milliard à la base, on s'est vite dit qu'il y avait un vrai sujet à creuser, un sujet documentaire, un sujet très actuel justement sur toutes ces initiatives alternatives autour des lieux et tout ce que l'opération Milliard apporte.
Ouais.
Donc en fait, moi j'accompagnerai Noah et je vais filmer différents projets au sein des lieux qu'on va visiter, en fait, les lieux qui sont partenaires avec l'opération Milliard. Et on les a choisis parce que c'est des lieux qui méritent vraiment d'être mis en lumière dans cet aspect-là et parce que c'est important déjà vis-à-vis de l'opération Milliard de montrer à son public qu'est-ce qu'un lieu partenaire de l'opération Milliard et à quoi peuvent servir ces lieux et à quoi ça constitue vraiment des pôles de vie. Et donc c'est ça qu'on va être chargé de mettre en lumière en allant là-bas, en rencontrant les acteurs des différents lieux, en rencontrant aussi les projets et en essayant de mettre en valeur en quoi ce lieu est unique et en quoi, par exemple, de tels lieux d'alternative ont besoin de financement et ont besoin de reprendre justement le pouvoir sur leur fonctionnement, comme ils le font déjà.
Donc c'est pas du tout les ateliers que Noah propose que vous allez filmer.
En fait, ça va en faire partie.
Ouais.
Mais moi, je suis surtout là à travers l'opération Milliard pour mettre en lumière les lieux.
Les lieux.
Okay. Moi, j'ai fait une session des ateliers avec Noah où j'ai filmé, donc on s'est rendu compte. Mais en fait, là, moi, je vais surtout être là dans un cadre plus général pour faire du contenu vidéo sur les lieux, pour de la communication autour de l'opération Milliard et pour les lieux aussi. Mais aussi, sûrement, pour réfléchir à d'autres enjeux autour des lieux et autour de potentiels sujets documentaires qu'on pourrait faire.
Okay.
Donc, moi, je viens plutôt en parallèle de la tournée, même si j'accompagne et je vais faire de la communication autour des différents ateliers. Je vais être là, on va prendre des photos, on va faire en sorte de mettre en lumière tout ça. Mais c'est aussi pour s'intéresser aux lieux en eux-mêmes que je suis là.
Et est-ce que vous savez déjà comment vous comptez monter les vidéos que vous allez prendre, quel type de contenu vous voulez créer avec ce que vous allez filmer?
En fait, moi, j'aimerais bien passer par un narratif, essayer de trouver une histoire autour des lieux qu'on va filmer, autour des projets qu'on va trouver. Et en fait, comme c'est un peu le manifeste de la tournée, de dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais qu'on peut le transformer en arme pour créer des initiatives et pour créer des actions. En fait, c'est aussi pour ça qu'on avait envie avec Noah de passer par les projets et en quoi un tel projet d'une telle association ou d'un tel lieu peut être bénéfique, peut servir à des gens, et donc raconter l'histoire de ce projet ou l'histoire de ce lieu à travers les gens qui le côtoient, à travers les acteurs qui l'ont créé, pour ensuite arriver à la finalité de regarder, effectivement, il y a des actions qui méritent d'exister, qui doivent exister même, et c'est pour ça que ça doit être mis en avant à travers des associations comme l'Opération Milliard. Donc je pense que c'est à travers un narratif qu'on va réussir à vraiment donner de l'importance à ces films qu'on va être amené à réaliser au fur et à mesure.
Ok. Où est-ce qu'on pourra regarder et retrouver donc ces vidéos? Est-ce qu'elles font partie de la communication d'une association ou est-ce que vous allez créer un compte sur des réseaux pour les poster?
Alors, ça sera intégralement la communication de l'opération Milliard, parce que nous, on est vraiment derrière cette association. Donc, en fait, c'est pour eux qu'on fait ça. Et donc, ça va faire partie de leur communication. Donc, vous allez pouvoir retrouver la majorité sur leur réseau, sur leur site, en tout cas, dans tout ce qui leur attache. Ça sera publié normalement au printemps, selon les délais. Et ensuite, ce sera aussi certainement intégré à la communication de certains lieux, parce que on va quand même faire de la communication autour des ateliers donnés dans les lieux, donc c'est quand même important de montrer ça. Maintenant, c'est pour retrouver les vidéos qui vont être réalisées au fur et à mesure de la tournée, ce sera sur les plateformes liées aux lieux qu'on va visiter, aux différents.
Okay, ouais. Et donc, c'est quoi les lieux où vous allez filmer du contenu? Est-ce qu'on peut...
Alors, on a conclu avec l'opération Milliard qu'il y aurait 6 lieux à filmer.
Ouais.
Donc, comme a dit Noah, on va en faire une trentaine, mais en fait, il fallait un peu trancher parce que ça demande déjà du temps de faire des vidéos, de faire le montage, et il fallait qu'on condense. Donc en fait, avec l'opération Milliard, on a choisi de s'intéresser plus profondément à 6 lieux, en les choisissant par rapport à leur géographie, par rapport à leur histoire, par rapport à leur construction actuelle. Et donc la liste des 6 lieux, donc il y aura premièrement le Hangar Zéro au Havre, donc c'est un des tiers-lieux par lequel on va passer. Ensuite, il y aura un tiers-lieu qui s'appelle le Mazier, à Bourbon-l'Archambault, c'est ça? Ouais. Ensuite, on aura le 23 à Anner, il y aura le Loubatas à Apérol-en-Provence, donc dans le sud. Il y aura Éco-Parc, donc ça c'est à Münster, c'est ça? Ouais. Et il y en a un dernier qui m'échappe là maintenant.
Et t'as Ébullition à Annecy.
Ébullition à Annecy, le fameux tiers-lieu de Annecy. Donc voilà, donc ce sera sur ces 6 lieux qu'on va faire des sujets plus approfondis. Sur les autres, il y aura aussi de la communication, il y aura des photos, il y aura sûrement aussi des vidéos, parce que je pense qu'on ne va pas rester les bras croisés avec Noah, on va essayer aussi de s'impliquer à un moment donné. Mais les 6 films les plus fournis seront autour de ces 6 lieux que je viens de citer.
Et il y a une volonté aussi de vous filmer en vélo ou pas du tout?
En fait, on s'est demandé, ça a été longtemps la question. Ouais. Là, en fait, la tournée, ça va un peu rester en parallèle sur les films pour la communication de l'opération Milliard, parce que ça doit rentrer dans la communication sur les lieux et pas tant sur la tournée. Mais je pense que nous, de notre côté, on va quand même tourner des choses autour de la tournée, notamment autour des ateliers, pour possiblement penser à des petits films qu'on pourra faire pour nous, qu'on pourra aussi peut-être diffuser pour nous, ou alors dans la perspective d'un projet futur.
Ok, très bien.
Ouais, si je rebondis juste sur le fil narratif qu'on trouvait hyper intéressant, aujourd'hui, il n'est pas forcément traité autour des six lieux, mais je pense qu'il sera quand même en un peu sous-jacent, en fond, mais il y a un truc hyper puissant qui sera intéressant à raconter à un moment. En fait, c'est que à la fois, l'écologie, c'est un sujet qui touche peu de personnes aujourd'hui. La finance, c'est un sujet pareil qui paraît très obscur, qu'on soit dans ce milieu-là. Et en fait, quand on réunit les deux, se dire que tu vas t'intéresser à la fois au système financier, ton épargne, ta banque, et en plus à un côté d'écologie sociale qui est vraiment un autre domaine, réunir les deux, des fois on peut se dire c'est impossible, c'est une montagne à gravir qui est beaucoup trop grande, surtout pour des citoyens lambda.
Et c'est nébuleux, oui, surtout.
Ouais, du coup, le défi, il est vraiment triple, quoi. Et intégrer des gens dedans, parce qu'on dit, ok, leur donner voix au chapitre, mais en fait, c'est des gens qui ont des jobs, qui ont des enfants à charge, qui ont des choses à faire de leur vie, et on dit, bah ok, on va vous intégrer dedans, mais à quel moment aussi on leur laisse une place pour apprendre ces sujets-là, on les rend un peu plus cohérents et plus vulgarisés. Du coup, c'est ça qui est assez compliqué, et qui est en même temps une critique du système financier et de comment on agit aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'en fait, il existe des alternatives qui rendent ça possible. Que c'est pas si compliqué de comprendre, même si j'entends que ça reste assez lointain. Qu'il existe des alternatives crédibles pour s'engager sans prendre un temps monstre, et que c'est possible d'avoir un impact même à son échelle perso. Que au-delà de, on entend beaucoup le changer de banque, au-delà de vraiment creuser le sujet super profondément et de s'engager dans des partis politiques, même si c'est une façon de le faire, mais il existe des trucs hyper concrets, des foncières solidaires, financer des fermes durables avec de l'épargne solidaire. Je parlais d'énergie partagée qui permet de financer de l'énergie renouvelable avec la décision des gens et des collectivités. Et en fait, on peut le comprendre, ça peut être avantageux pour nous, pour ces projets-là, sans que ça soit tant nébuleux. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant à raconter, de montrer qu'il y a des projets concrets, des alternatives financières qui existent, et des gens lambda, quoi, comme vous et moi, qui peuvent agir derrière, quoi. Et donc, ouais, s'il y avait un truc à raconter plus tard, mais je pense qu'il sera un peu dans nos têtes le long de la tournée, c'est autour de ça, quoi.
Oui. Ok.
Mais montrer que malgré le fait que effectivement ça paraît compliqué d'aborder ces sujets, en fait en réalité il existe déjà des dizaines d'alternatives comme ça, et qu'il faut juste leur trouver une voie, il faut juste leur trouver une place et comment les montrer, et en fait tout le monde peut intégrer ce genre d'initiative et montrer justement que ça existe déjà et que c'est déjà en cours en fait.
Vous nous avez parlé de Reboot. Est-ce que quel est votre rôle au sein de Reboot? Pouvez-vous nous dire un peu plus précisément qu'est-ce que c'est?
Ouais, carrément. Je pense que Reboot, c'est une association hyper importante pour moi et dans la construction de ce projet, parce qu'elle arrive au début de ma réflexion sur ces sujets-là. En fait, c'est une association qui a pour mission de donner les clés aux acteurs de la finance pour un monde soutenable. Derrière cette grande phrase, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a des jeunes étudiants, des jeunes actifs qui seront ceux qui feront la finance de demain, mais qui trouvent pas les formations nécessaires dans leurs écoles pour la réinventer. Donc, depuis maintenant, je crois quasiment plus de 4 ans, on crée des programmes de formation spécifiques pour permettre à cette part d'acteurs de la finance de la réinventer, qu'on appelle des bootcamps, en 8 à 9 sessions. Donc ça, c'est un peu le programme phare de l'association à la base. Et qui a beaucoup d'impact, c'est une communauté qui est créée autour de ça. On a toujours des conférences et des articles autour de ces sujets-là. Et à un moment, il y a deux axes supplémentaires qui sont venus s'additionner. Se dire, un, on peut pousser plus loin en faisant du plaidoyer. donc venir changer les formations. Il y a tout un travail qui est en train d'être réalisé par des personnes au sein de l'association pour changer les masters en finance et changer les masters en général sur ces sujets-là et intégrer plus de finances durables. Et je pense qu'il y a quelques années, et moi quand j'ai beaucoup plus retravaillé dessus avec d'autres personnes, on s'est dit, bah, dans les acteurs de la finance, on a aussi les épargnants et les épargnantes qui sont directement confrontés à ce système à travers leur banque. Et on se doit aussi de proposer quelque chose pour ces personnes-là et de rendre ce système un petit peu plus compréhensible, comme on l'a déjà évoqué. Et donc là, on a créé un programme qui s'appelle toujours le programme Épargne et qui inclut en fait deux choses. Un qui est un premier atelier sur la fresque de la finance, qui est du coup aussi une autre association, mais avec laquelle on est en partenariat dessus, qui vise à vraiment démystifier le système financier. On le pose sur une table et on comprend le flux de l'argent, je dirais, le rôle de chaque acteur, la banque, la société de gestion, l'entreprise. On va parler de marché primaire, secondaire, des concepts qui paraissent assez complexes, mais une fois qu'on les pose, on arrive à les comprendre. On fait ensuite des cas pratiques, par exemple sur le financement de projets écocides. En fait, quel est le rôle de chaque acteur dessus? On fait d'autres choses comme ça et on montre aussi qu'il existe des solutions, à la fois macro et individuelles. Et derrière, avec Reboot, on s'est dit, bah, il manque peut-être, ou du moins en complémentarité, on pourrait ajouter un atelier qui est vraiment axé très pratico-pratique. Si moi, je veux agir demain, qu'est-ce que je fais? Et donc ça, on l'a pensé au niveau de sa banque et de son épargne personnelle. Et après, on pourrait y revenir, mais il y a tout un sujet justement sur comment on rentre pas dans de la culpabilisation personnelle, type c'est moi qui investis dans des projets fossiles, donc le citoyen est finalement coupable, au même titre que le bilan carbone, mais c'est plutôt une structure globale et systémique à venir changer. Mais bref, mais ça intéresse quand même beaucoup de personnes, comment on investit autrement au niveau de sa banque, ses livrets, il y a des personnes qui vont ouvrir des assurances vie, des plans d'épargne-action, comment j'investis en direct, je parlais de projets très concrets tout à l'heure, mais c'est très nébuleux, très complexe, plein de concepts, et du coup, nous, on a créé un autre atelier de 3 heures aussi, qui vise à comprendre l'ensemble de ces choses. Alors, c'est dur de tout comprendre d'un coup, mais justement, chacun et chacune vient piocher ce qui l'intéresse selon sa situation et peut revenir après dessus. Et donc ça, c'est ce qu'on a créé au sein de Reboot et qui sont toujours dispensés aussi par d'autres en dehors de la tournée. Et c'est ces deux ateliers qui font partie de la tournée, quoi.
Merci beaucoup. Alors, comment se fait-il que les financements des banques mondiales pour les énergies fossiles continuent d'augmenter?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas par où prendre le bout. Mais je pense que assez simplement, on est aujourd'hui dans un système économique et financier qui a pour but une maximisation du profit et qui a un horizon de temps court-termiste. Donc, quand on part de ces deux constats, aujourd'hui, les énergies fossiles et notre mode de vie actuel est plus rentable et plus, au-delà de rentable, est plus profitable. Parce que vous avez plein de choses qui sont rentables mais pas forcément excessivement lucratives. Quand même à différencier. Donc c'est plus profitable que des alternatives souhaitables, joyeuses, durables en fait. Et donc assez simplement, tant qu'on reste dans cette logique-là, on financera toujours le monde d'aujourd'hui et pas celui de demain. Vous avez plusieurs écoles sur ce sujet-là, une qui tend à dire que en fait les coûts de la transition ou des catastrophes de demain, qu'elles soient sociales ou écologiques, sont pas pris en compte dans la finance. Et qu'on pourrait toutes les prendre en compte et refaire des modèles de rentabilité, de profitabilité différents. C'est une vision, vous en avez une autre qui dit aussi où il faut un petit peu dépasser ce modèle de rationalité économique pure et aller justement à prendre en compte des choses qui sont intangibles. Typiquement, bah non, on peut pas financer des énergies fossiles, peu importe un calcul économique, juste parce qu'on court un ordre de perte. Non, on peut pas détruire des écosystèmes, on peut pas mettre des gens à la rue. Et en fait, ça va au-delà de calculs économiques. C'est aussi réencastrer en fait la finance dans l'humain, dans le social et dans l'environnement. Finalement, c'est pas elle qui dirige tous les autres pans, mais c'est plutôt elle qui devrait être au service du reste et pas forcément tout calculer économiquement, quoi. Je m'en suis sorti.
Parfait. Alors, quelle formation ou sensibilisation faudrait-il faire en premier selon toi et pour quel public, enfin selon vous
Ben moi, je pense que c'est assez important de comprendre le système au global avant d'agir directement. Donc là, dans les deux ateliers, moi, je favorise la fresque de la finance en première introduction à ce sujet-là. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on a eu beaucoup de retours qui tendaient à dire « Je viens à ces ateliers et j'aurais aimé avoir des réponses très claires et précises sur « Ok, je suis venu maintenant, demain, je veux investir là, je dois mettre ici » et un conseil beaucoup plus précis. Nous, on a pris le parti pris, si je puis dire, en fait, on vous donne les clés pour comprendre. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez faire aussi vos propres recherches et agir selon ce que vous avez compris et ce qui vous intéresse, quoi. Donc, on a favorisé cette compréhension en premier et derrière, vraiment, les clés pour agir.
Ok. Et sur le côté finance, comment avez-vous obtenu les subventions pour ce projet ?
Alors, on n'a pas de subvention.
C'est l'association, en fait. C'est l'opération milliard, en soi, principalement. Il n'y a pas de financement extérieur. C'est l'association, l'opération milliard qui finance la tournée. Après, c'est aussi les lieux qui vont nous héberger, les lieux où on va se rendre pendant la tournée, qui nous hébergent et qui font en sorte qu'on puisse rester sur place pendant la tournée. Mais en soi, il n'y a pas de financement externe. C'est après c'était aussi ton initiative, Noah, à la base, de faire cette tournée en bénévole parce que tu bossais avec l'asso à ce moment-là. Mais donc voilà, il n'y a pas de financement autre que l'opération milliard pour le moment.
Ok.
Et on en sait déjà plus sur ce projet à nous de compter. On va pouvoir y revenir juste après. On va faire une nouvelle pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. On écoute tout de suite Boys on Sale de Sex Shop Mushroom.
Free this. Boys on sale. These boys on sale.
venez d'écouter Boys on Sale de Sex Shop Mushroom sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On entame à présent la dernière partie de l'émission. Alors je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Victor et Noah venus nous parler de leur projet À nous de compter.
Alors j'aurais bien voulu que l'un de vous puisse essayer de nous pitcher, de nous raconter ce que vous dites dans vos ateliers, pour qu'on puisse savoir, nous et nos auditeurs, ce dont vous parlez, et peut-être apprendre aussi davantage sur donc la finance durable, l'épargne solidaire, etc.
En fait, déjà, il y a plein de termes, et du coup, c'est normal que la question soit dure à formuler,
ouais.
Parce que, du coup, il y a deux questions. Il y a premièrement, on dit finance durable, finance solidaire, finance à impact, finance responsable.
Mm-hmm.
En fait, c'est un ensemble de termes qui sont plus ou moins engagés,
ouais.
Et dans les ateliers, on voit un petit peu la différence entre tous.
Mmh.
L'idée, souvent, la finance durable, c'est vu comme un grand chapeau de pratiques plus ou moins vertes, sociales, etc. Mais les définitions sont très larges. Donc, ça dépend ce qu'on met derrière sur un monde durable,
okay.
Premièrement. La finance responsable, ça va être une finance qui a des techniques et des outils qui font que elle fait pas le pire, en gros. Une des techniques, par exemple, c'est je prends toutes mes possibilités d'investissement, mettons il y a 20 boîtes, et je vais regarder lesquelles ont les meilleures pratiques environnementales et sociales,
mmh.
que je note. Et donc, on fait ce qu'on appelle le best, des approches best. Et je n'investis que dans celles qui ont les meilleures notes, par exemple, ou que je considère les plus durables dessus. Donc ça, vous pouvez l'appliquer à plein de trucs.
Mais du coup, c'est pas les notes maximales que tu puisses avoir. C'est dans cette sélection, les meilleures notes de différents projets sélectionnés.
Ouais, mais il y a plein d'approches. Tu peux le faire dans un secteur précis,
ouais.
où tu prends que les meilleurs. Tu peux le faire dans l'ensemble de tous les secteurs où tu prends que les meilleurs. Un truc un peu name-dropping, par exemple, même si je m'éloigne de la question, il y avait aussi des critiques sur la finance responsable, parce qu'il y a une approche qui s'appelle best in class, et qu'en gros, c'est le meilleur de son secteur. Et pendant longtemps, Total a été le meilleur de son secteur.
Oui, mais oui, c'est ça. C'est par rapport à une sélection et un critère de choix, quoi.
C'est ça. Donc, c'est pareil. En fait, c'est un ensemble d'outils, je dirais plus, la finance responsable. Là, j'en ai juste exploré un, qui est l'approche best, mais vous avez aussi d'autres qui sont les exclusions. Type, donc, si on prend en général, les banques et les fonds d'investissement, sociétés de gestion vont exclure tout un tas de secteurs ou tout un tas de critères, mais qui déterminent plus ou moins fort. Et donc, ça, c'est une autre approche.
Okay.
C'est-à-dire, moi, j'investis pas dans le fossile quand les entreprises font plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans le fossile. C'est ce qu'on appelle une approche d'exclusion. Mais du coup, ça dépend de l'engagement aussi de cet acteur financier pour aller plus ou moins loin dedans. Donc ça, c'est vraiment un ensemble d'outils, la finance responsable. Et après, à quel point vous mettez l'outil plus ou moins puissamment, je dirais, ça dépend de l'engagement de cet acteur. Ce qu'on va appeler après la finance solidaire, c'est qu'il vise à financer des projets solidaires, à impact écologique, social. Et très souvent, c'est relié finalement à aussi une possibilité de réduire la rentabilité de cet investissement. Parce que pour l'instant, quand on parle de durabilité, de responsable ou même souvent de finance à impact, on ne dit pas forcément qu'on va avoir moins de rentabilité. Et du coup, il y a un gros sujet de est-ce que vous pouvez financer vraiment un monde durable et social en gardant la même rentabilité qu'on a aujourd'hui ?
Ouais.
Moi, j'ai une réponse un peu entre deux, de dire peut-être sur certaines choses, mais il y en a d'autres très clairement, on le sait, où non, ça ne sera pas aussi rentable, il faut juste l'assumer. Donc le solidaire, ça prend ce parti aussi, bien que ça ne soit pas forcément que du don, hein, mais ça peut être juste une rentabilité limitée, et on a des projets rentables, mais qui ne sont pas juste ultra profitables.
Ouais.
Et donc c'est de prendre un peu cet entre-deux. Et la finance à impact, c'est un autre pan qui s'est développé, qui vise à dire on peut, à partir de trois critères, choisir des projets à avoir de l'impact. Donc se dire il faut qu'on ait l'intentionnalité d'avoir de l'impact, positif, hein, on s'entend, que ça n'arrive pas par inadvertance. Mmh. Il faut qu'on puisse le mesurer, donc un critère de mesurabilité. Et un troisième qui est un critère d'additionnalité, de se dire, j'ai de l'impact positif, mais est-ce que vraiment, parce que j'ai financé ou parce que j'ai accompagné ce projet ou eu telle ou telle action, mon impact a été additionnel et il n'aurait pas été là dans tous les cas. Donc ça, c'est un autre pan qui est appliqué avec d'autres acteurs de la finance. Donc ça, c'est un peu nébuleux et ça se place, je trouve, plutôt au niveau des banques, des sociétés de gestion et des professionnels. Et je sais qu'il y avait une question plus sur l'épargne.
Ouais, à l'échelle individuelle, comment on sait notre épargne, où ça va et comment faire pour que ça aille à des bonnes choses, quoi, et pas à des projets non écologiques ou...
En gros, faut se dire qu'il y a différents pans dans l'épargne. En gros, déjà, l'épargne, c'est la partie du revenu qui est non consommée.
Ouais.
En gros. Donc, on ne va pas dépenser. Et déjà, en partant de là, faut se dire que l'épargne, c'est un sujet hyper inégalitaire. Que, en gros, il y a très peu de personnes qui ont la plus grande partie de l'épargne. Je trouve que c'est important de le rappeler au début. Et ensuite, se dire que l'épargne, c'est une espèce de pyramide où vous avez différents types d'épargne. Vous avez ce qui va être un compte courant, un livret, une assurance vie, un plan d'épargne action et financé en direct des projets. Si je fais en gros, et même l'immobilier qui rentre dedans. Et chacune de ces briques ont un petit peu leurs différences et leurs spécialités. Et du coup, c'est ça qu'on explore un peu dans les ateliers. Et si j'en prends une, par exemple, qu'on peut développer, c'est de se dire, ok, je vais ouvrir un livret A dans telle banque. Où est-ce que l'argent va ? Un livret A, en fait, on apprend qu'il est en gros géré à 50% par la Caisse des dépôts, qui est un organisme détenu en majorité par l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce que finance la Caisse des dépôts ? Et ben, en fait, mon argent, elle est posée ici. C'est principalement le logement social dans le livret A et d'autres projets. Vous avez des controverses qui, la Caisse des dépôts voulait financer l'armement, par exemple, ou d'autres projets où c'était pas du tout, en fait, sur le logement social. Et vous avez et l'autre 50%, il est géré par ce qu'on appelle une société de gestion. Donc à chaque fois, vous avez votre banque de détail qui vous fournit votre carte, votre compte courant, et en fait, les services de paiement et de juste avoir de l'argent sur un compte et un service informatique et plus ou moins quelqu'un à l'accueil maintenant.
Ouais.
Et de l'autre côté, vous avez en fait une société de gestion qui est une autre entité, mais à chaque fois, c'est un petit peu les mêmes, et qui, elle, est en charge d'investir, en gros, les sommes récupérées à travers des livrets, par exemple. Et donc, selon la société de gestion qui gère ce livret A, cet autre 50% qui ne va pas à la Caisse des dépôts va être plus ou moins bien investi. Et donc là, vous avez des... rapports, des applications ou simulateurs, en fait, qui vous montrent que bah, quand vous mettez votre livret A dans certaines banques, on finance plus ou moins les énergies fossiles, on finance plus ou moins certaines choses. Et bon, on peut faire le même exercice, en fait, sur le livret de développement durable et solidaire.
Okay.
On peut faire le même exercice sur les assurances vie que vont vous proposer votre banquier et votre banquière. Encore une fois, il est lié à une société de gestion. En fait, ce qui devient plus intéressant, c'est que plus on monte dans cette espèce de pyramide, plus on peut avoir de contrôle, entre guillemets, et de choses à regarder. Je reprends un exemple. Une assurance vie, en fait, c'est un ensemble de sociétés de gestion qui vous proposent des produits d'investissement, quoi, qui, eux, derrière, investissent sur des actions et des obligations dans des entreprises, en gros. Et à ce niveau-là, ben, en fait, votre banquier, par exemple, ou votre bancaire, ils sont tenus de vous poser des questions sur vos préférences en termes de durabilité et de risque aussi. Et souvent, ils le font très peu ou pas, ou ils ne savent pas exactement ce qu'ils proposent dedans. Donc, le but des ateliers, c'est de se dire, bah, en fait, déjà, je sais qu'on peut me poser ces questions, et maintenant, quand on me les pose, je sais ce que je peux regarder quand on me propose cette assurance vie, par exemple. En fait, il existe des labels, comme le label ISR pour investissement socialement responsable, comme le label Finance Sol, qui est un label de finance solidaire, le label Greenfin, qui est sur de la finance verte, en gros, géré par le ministère de l'écologie, là où, en gros, s'il existe encore, j'ai un peu des doutes sur le politique en ce moment. Et le ISR, c'est par le ministère de l'économie. Et en gros, ben, vous pouvez regarder ce genre de choses dans les fonds sans tout comprendre et dire, ben non, moi, je voudrais investir, en fait, OK, on a assurance vie, mais que sur des fonds qui sont en finance solidaire, finance sol, par exemple. Et donc là, ben, votre banquier ou votre bancaire, ils sont tenus de vous proposer ces choses-là. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de donner, quelques clés de compréhension. Et vous l'avez pour l'ensemble de cette pyramide, quoi.
OK.
Et même pour l'investissement dans des projets plus concrets, en fait, c'est ça, directement auprès des assos ou quoi que ce soit.
Bah, si tu investis dans des projets en direct ou sur des plateformes, nous, dans les ateliers, on essaye de montrer ce qu'il faut regarder pour prendre en compte le risque du projet, pour développer un esprit critique aussi sur le potentiel d'impact du projet. Est-ce qu'il n'y a pas des effets rebonds? Est-ce que ça répond vraiment à quelque chose d'utile, de nécessaire dans la transition? Et donc là, je dirais que ça tient plus à chacun et chacune de décider si vraiment ça s'aligne avec ses valeurs. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en évidence pour prendre plus ou moins de risques aussi.
Et sinon, est-ce que, alors peut-être pas en citer tous, mais est-ce que tu aurais des alternatives, des noms de projets, de banques qu'il faudrait aller ou pas
C'est une super question, parce que c'est un retour qu'on nous fait beaucoup, et on a tendance à dire qu'on n'a pas le droit de faire du conseil en investissement financier. Donc, à partir de là, je pourrais pas vous dire mettez votre argent là ou là.
Ouais.
Par contre, on peut quand même expliquer qu'il y a plein d'alternatives qui se sont créées, notamment par rapport au problème qu'on a évoqué du système de la finance.
Okay.
Si on reprend le haut de la pyramide, par exemple, en investissement en direct, vous avez plein d'initiatives qui cherchent à créer des fonds d'investissement, des coopératives hyper concrètes. Par exemple, Énergie Partagée, donc j'ai cité non et qui font partie de la tournée, sont une alternative financière et ont un fonds d'investissement dessus. Terre de Liens, qui finance des fermes en agroécologie, en fait partie. Vous allez avoir la coopérative Oasis, pareil, qui finance des écolieux, Habitat à Humanisme, Village Vivant, il y a plein de choses qui sont à ce niveau-là. Si on redescend un petit peu, ils font beaucoup de marketing dessus, il y a des assurances vie alignées sur les accords de Paris. C'est pas du conseil en investissement de le dire, mais il en existe, comme ce que fait Goodvest, par exemple. Dans les banques un petit peu plus classiques, quand on se pose la question de ces livrets et de ces comptes courants, je pense que déjà, on peut aller regarder en fait les acteurs qui les analysent. Reclaim Finance fait un travail incroyable dessus et produit des rapports sur les financements des énergies fossiles des banques les plus connues. Vous avez Oxfam qui produit des rapports aussi dessus. Il y a des articles de Bon Pote sur le sujet. Et il y a différents un petit peu corps d'alternatives qui se sont créés. Donc vous avez vraiment une banque qui est maintenant indépendante et plutôt à la base orientée vers les professionnels, mais s'ouvre aussi vers les particuliers, qui est une des plus vieilles institutions qui s'appelle la NEF, qui est très reliée à la finance solidaire à la base, et toujours d'ailleurs. Vous avez un autre pan qui s'est aussi lancé sur les néobanques durables, okay. Un peu la version Revolut, si vous voulez, durable. J'irai pas analyser si ça l'est vraiment ou pas, si ça a vraiment de l'empreinte carbone ou pas, si ça a un impact ou pas. Il y a plein de débats sur le sujet, mais ouais. Qui sont aussi intéressants, si vous voulez vous instruire dessus. Mais vous avez des Helios ou des Gringotts, qui propose aussi d'ailleurs des plans d'épargne retraite ou des assurances vie, un peu comme Goodvest. Et voilà.
Ok, c'est déjà pas mal comme piste. Et ben merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter?
Moi je trouve qu'il y a un gros truc et où j'ai pas la solution aujourd'hui, donc je le pose là, qui est de... C'est bien beau tout ce que je viens de raconter, mais comment t'arrives à comprendre que c'est pas forcément lié au montant de l'épargne que possède une personne, mais que c'est surtout lié à la structure en fait du système financier aujourd'hui. Et on a beaucoup de personnes qui viennent ou qui viennent pas aux ateliers et qui disent « bah moi ça m'intéresse pas parce que j'ai pas d'épargne et donc je peux pas agir ». Et en partie, c'est vrai qu'on agit selon où son épargne est, selon quelle banque on permet d'avoir des revenus, etc. Bien qu'il y ait un sujet sur ton épargne ne finance pas directement les crédits de la boîte, etc. Mais bref, il y a quand même un impact. Versus, en fait, si tu n'en as pas, comment tu peux avoir un impact sur ce système-là et venir le changer? Ne pas rentrer dans un truc de culpabilisation personnelle, c'est quand même assez tricky. Et c'est un sujet, je pense, qui demandera plus de matière à réfléchir là-dessus. Et je suis assez persuadé que même si toutes les personnes suivaient ces super ateliers, même des gens qui avaient beaucoup d'argent, allaient voir sa banque et investissaient sur des super assurances vie ou sur des projets en direct, on s'en sortirait quand même pas, en gros.
Ouais.
Et que ça tient aussi beaucoup à la compréhension de ce système et comment le modifier. Et peut-être démarchandiser un certain nombre de choses, se réapproprier la monnaie, en refaire des communs. Et réduire la rentabilité, ça vient aussi par le législateur. Il y a des choses qui sont rentables aujourd'hui qui ne devraient pas l'être. Et donc, assez simplement, quand vous vous levez le matin et que vous allez bosser pour des nouveaux développements de projets fossiles en Ouganda, en gros, vous coûtez plus à la société que vous lui rapportez.
Ouais.
Donc, comment tu permets que ça, ça soit plus rentable et donc plus investissable non plus ? Et ça tient bien au-delà de choisir sa banque ou de son épargne personnelle, quoi.
Ok.
Peut-être parce que ça s'encadre encore dans le projet financier plus largement. Et du coup, ça reste choisir son investissement, ça reste quand même dans le système financier, mine de rien. Et je ne sais pas si c'est la vision la plus long terme que tu peux avoir par rapport à ça. Tu ne déconstruis pas vraiment le système financier en lui-même. Tu t'incarnes dedans, mais en trouvant des solutions à travers ce même système, quoi.
Mmh. Ouais, puis il y a des vrais enjeux, au-delà de la durabilité dont on a beaucoup parlé, de... En fait, juste comprendre la finance aujourd'hui, c'est assez dur pour beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui perdent de l'argent juste parce qu'elles ne le comprennent pas ou n'ont pas confiance du tout dans ce système-là ou dans leur banque et juste qu'ils se font avoir, quoi. Mm-hmm. Et il y a des questions à se poser sur est-ce que c'est normal de ne pas forcément comprendre où est-ce que va son argent, de quel est le lien avec sa banque. Alors que c'est l'argent pour le... Enfin, on a le droit à cet argent. On ouais. enfin, tout le monde, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, quoi.
Est-ce que donc on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux prochainement, peut-être plus, mais est-ce que vous avez des réseaux sociaux à promouvoir ?
Eh bien, le site de l'opération Milliard, ouais. principalement. Mm-hmm. Il va y avoir une actualisation au fur et à mesure de la tournée, avec surtout des photos, je pense, des photos des ateliers, des photos des lieux, des photos de nos rencontres.
Okay.
Et ouais, voilà, principalement l'opération Milliard, et sûrement aussi à travers les lieux que j'ai cités tout à l'heure, où il y aura une petite communication. Il y a déjà certains lieux qu'on fait une communication sur la tournée, et donc voilà, à travers les... Okay. À travers les différents lieux de la tournée, vous pouvez aussi retrouver l'avancement de À nous de compter.
Ce serait une com plus locale, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et peut-être, donc là, il y a un atelier qui va être donné à Tours. Ouais. L'idée, ça serait peut-être d'en refaire prochainement après la tournée aussi. Un départ et une fin à Tours. On est Tourangeau. Nous venons du 37. Et aussi un appel, en fait, ces ateliers, ils n'ont pas vocation à s'arrêter après la tournée, donc s'il y en a d'autres personnes qui veulent en organiser ou les suivre, c'est possible. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est me contacter directement ou...
Si, tu peux donner ton contact si tu veux. Enfin, c'est toi qui...
Je peux donner mon adresse mail.
Ton adresse mail si tu veux.
Alors, c'est tot.noa24@gmail.com.
Ah bah, j'enverrai un mail, tiens.
Ouh.
Et juste avant de se quitter, on va écouter une toute petite chronique explicative d'un concours qui s'appelle le concours Résonance, créé par la fondation Good Planet. Je vous laisse Marina vous expliquer tout ça.
Salut, moi c'est Marina et je travaille sur Résonance, le concours créatif de la fondation Good Planet. Résonance, c'est un concours qui donne la parole aux jeunes de 15 à 25 ans sur les enjeux écologiques et de justice sociale à travers 5 formats artistiques, écriture, illustration, photo, vidéo ou audio. La 4e édition est ouverte jusqu'au 28 février 2026 sur la thématique Territoire vivant. C'est une thématique qui invite à repenser son lien au territoire, lui donner un sens nouveau et regarder autrement ce qui nous entoure. On encourage un maximum de personnes à participer, quel que soit votre niveau de connaissance de ces enjeux ou vos aptitudes artistiques. Résonance, c'est justement le lieu pour ça. C'est une invitation à explorer la thématique et à tester de nouvelles pratiques créatives. Pour accompagner un maximum de personnes dans la création, on propose plein de ressources inspirantes gratuites sur la plateforme resonance.goodplanet.org ou sur notre compte Instagram @resonance-goodplanet. Vous pourrez y retrouver des conseils, des recommandations culturelles ou des petits exercices créatifs simples et accessibles. À la clé, les 10 lauréats et lauréates du concours remporteront des expériences uniques comme une immersion au sein d'une maison d'édition, la découverte d'un enregistrement live en studio, une rencontre avec un photographe professionnel ou encore des stages d'illustration ou de vidéo au Gobelin. Alors à vous de jouer en nous envoyant votre création avant le 28 février 2026 sur la plateforme resonance.goodplanet.org. Résonance, R-E-S-O-N-A-N-C-E-S.goodplanet.org. À bientôt.
Et merci beaucoup pour votre participation. Cette émission est à retrouver demain midi sur nos ondes, mais également en podcast sur radiocampustour.com. On se laisse sur une dernière touche de musique avec It's Time to Wake Up 2023 de La Femme.
Je dis la vérité. La vérité.